Amen, amen, merci. Alors, je rends grâce à Dieu, à merci au Seigneur pour cette grâce et venir partager le message avec vous. Alors, c'est vraiment une bénédiction de le faire. Alors, la parole de Dieu, elle est vraiment, sans utiliser les termes courants, elle est sucrée. Et j'aime vraiment cette parole parce qu'elle vient nous éclairer, elle nous éclaire vraiment. Parce qu'on a les directions du monde, les directions des amis, les directions de la télévision. Mais quand la parole de Dieu vient parler, en fait, c'est la vérité. Et c'est la parole qui conduit à la lumière. C'est pour ça qu'elle est rafraîchissante, parce qu'elle conduit à la vie. Et dans cela, il y a la vie. Jésus-Christ a dit qu'en fait, les Israéliens, les scribes, ils cherchaient la parole, ils étudiaient la parole parce qu'ils cherchaient la vie éternelle. Dans cette parole, il y a la vie. Et cette parole, en fait, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est souvent difficile de comprendre les chrétiens qui ne veulent pas lire la parole ou écouter la parole, mais dire qu'ils croient en Jésus-Christ. C'est une contradiction. Et commencement, on parle de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Du grand. Et merci au Seigneur pour cette grâce, vraiment. De partager cette parole avec vous. C'est un honneur, c'est une grâce. Et avant qu'on ne continue, invite le Saint-Esprit qui vient prendre contrôle. Saint-Esprit, vient prendre contrôle, Seigneur. C'est ton temps que Jésus-Christ soit glorifié. Que ce qu'il a prévu dans les cieux pour ces moments, que ce soit qu'il soit relâché. Saint-Esprit, parle à travers moi et touche le cœur de ses enfants. Nous prenons, Père, ce temps dans le sang de Jésus-Christ. Nous érigeons les murs de feu, Seigneur, contre toutes les distractions et perturbants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai mis sur la toile le titre qui était sur Josué et 1, je pense. Et c'était sur Sois fort et courageux. Mais quand j'étais en train, en fait, de développer le message, ce n'est pas conduit d'une autre manière. Donc, avant de voir, en fait, ce qu'il faut faire, ce que je vous ai fait, il faut qu'on voie un peu. Le titre de ce thème, en fait, c'est la course. La course, ta course. Je pense que c'est un thème qui est important. Et parce que nous vivons vraiment, en ce moment, nous sommes dans des moments qui sont un peu difficiles. C'est vraiment difficile, mais c'est beaucoup difficile pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes en train de traverser ces moments. Et on peut se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions, que ce soit par rapport au départ de notre frère, de notre pasteur Yam. Pourquoi ces moments? Pourquoi ces moments, pourtant, beaucoup avaient tant besoin de lui? C'est une question. Beaucoup pouvaient se dire, mais il était encore au début de sa course. Pourquoi le Seigneur l'a pris, le Seigneur l'a enlevé au début de sa course? Et pourquoi même sans dire au revoir? Ça peut être une autre question. Les questions qu'on se pose, les questions qui sont réelles par rapport à cette situation. Et quel est le plan que certains avaient prévu pour le week-end, pour le mois, pour cette année, pour l'année prochaine? Donc, c'est tant des temps qui sont difficiles. Et aussi, ce qu'il a laissé derrière, une famille, des familles. Et ce sont les questions, en fait, qu'il faut adresser. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur ouvre notre cœur pour qu'on puisse voir ce qu'il est en train de voir, pour qu'on puisse voir ces situations, la manière que Dieu voit ces situations, qu'on ne voit pas ces situations d'une manière corporelle, qu'on ne voit pas ces situations d'une manière charnelle, qu'on ne voit pas ces situations comme le monde le voit. Mais ce que je cherche pour la grâce de Dieu, qu'on essaie de voir, en fait, ces situations par rapport à la perspective du Seigneur, car c'est la bonne perspective. Donc, ces questions sont normales à se poser. Et la question peut-être la plus difficile, où notre intelligence, où nos émotions ont des difficultés à résoudre, à combiner, c'est pourquoi Dieu est bon. Non, Dieu est bon, mais pourquoi est-ce qu'il a permis cela? Mais comment peut-on trouver sa bonté dans ce qui est en train de se passer? Ce sont des questions que je me suis posées. Peut-être aussi beaucoup de personnes se posent cette question. Comment consolider la bonté de Dieu avec cette situation? Comment mettre les deux bouts? ça semble une équation qui est difficile à résoudre. Car la Bible dit que Dieu est bon. Dieu est bon dans les vallées. Dieu est bon dans les montagnes. Dieu est même bon avec les méchants. Car la parole dit qu'il pleut sur les bons et sur les méchants. Mais pourquoi ça? À ceux qui l'aiment. Et nous savons que Dieu est bon. C'est que c'est même pas qu'il y a un doute. Nous le savons, c'est à l'intérieur de nous. C'est ancré en nous. Juste notre témoignage prouve que Dieu est bon. Si on regarde où on était avant, le fait qu'on marchait pour aller en enfer, on voit comme nous a récupéré, nous a conduit à le connaître. Ce n'est même pas juste à discuter, ce n'est même pas à penser deux fois. On sait qu'il est bon. Ça, c'est même pas la question. Même aujourd'hui, le fait qu'on s'est levé ce matin, c'est sa bonté. Nous ne pouvons pas le nier. Dieu est bon tout le temps. Tout le temps, Dieu est bon. Mais par rapport à ces événements, comment concilier cela? Comment concilier cela? C'est une question maintenant de perspective. C'est une question maintenant de vision. Donc on doit lever les lunettes terrestres. On doit lever les lunettes Chanel. Et mettre les lunettes de Dieu. Comment Dieu voit ces choses? Il y a un pasteur qui avait partagé ce message avec nous. En fait, il veut d'abord souligner qu'en fait, la bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances dans lesquelles on se trouve. Donc, la bonté de Dieu, le fait en fait qu'il est bon, ça ne dépend pas des situations dans lesquelles on se trouve, les vallées dans lesquelles on se trouve, ou les montagnes, ça ne dépend pas de cela. Donc, il est bon. Dans ce sens, ça doit être une fondation. Donc, voici l'histoire en fait que mon pasteur, l'avant, m'avait dit. Il avait une sœur, je pense que c'était une sœur ou une frère, mais dans ce cas, on va dire une sœur, comme exemple. Il avait une sœur, en fait, et sa sœur était partie, sa sœur était morte, elle avait eu du cancer. Mais il s'est demandé, mais pourquoi, lui étant pasteur, Dieu n'a pas guéri sa sœur? Il se posait ces questions, parce qu'il priait pour les gens. Les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris. Mais quand c'est pour sa sœur, elle n'a pas pu être guérie. Mais Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas. Il avait des questions. Vous savez, souvent, vous pouvez prier au Seigneur, partir voir le Seigneur, mais vous avez quelque chose dans le cœur. C'est-à-dire, ici, en fait, que vous avez quelque chose, pourquoi pas elle? C'est ça, sa question. Quelques temps après, sa sœur qui était partie avait laissé un enfant qui est encore jeune, bas âge. Quelques temps après, cet enfant aussi est parti. Là, c'était alors terrible. C'était difficile pour lui. Il ne comprenait plus. Donc, c'était vraiment difficile. Et souvent, vous pouvez être dans une situation où vous pensez que Dieu doit vous rendre des comptes. Vous pensez en fait qu'il lui doit vous rendre des comptes. Il a passé une année difficile. Il a enterré deux de ses proches, sa sœur et son enfant. Pour beaucoup, pouvaient se poser la question. Les gens du monde, mais où est Dieu? Mais où est ton Dieu? Mais comment ton Dieu a pu laisser faire cela? Toi, qu'on passait, il y avait des questions à gauche, avant, devant, derrière. Comme maintenant, beaucoup peuvent se questions. Les gens du monde aussi peuvent se poser les mêmes questions. Mais où était Dieu? Où est le Rédempteur de notre vie? Donc, c'était une situation qui était difficile pour ce pasteur. Mais Dieu, par sa grâce, lui a donné une parole. Et cette parole, en fait, a changé sa manière de voir les choses. Et parce que sa manière de voir les choses a changé, il a pu comprendre un peu. Et cette compréhension lui a donné la paix. Et maintenant, il en parle comme un témoignage pour glorifier le Seigneur. Et voici ce que le Seigneur lui a dit. Il a dit ceci. Si tu savais où ils sont maintenant, et avec qui ils sont maintenant, toi-même, tu ne voudrais pas qu'ils reviennent. Parce qu'il a reçu du Seigneur. Avec toutes ces questions dans le cœur, quand il a compris en fait avec qui sa sœur était, avec où elle était d'abord, elle était en paix, elle ne souffre plus, elle était dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, et avec qui, avec son Seigneur, avec son maître. Si tu savais ça, tu ne voudrais même plus qu'elle revienne. Dès qu'il a compris cela, dès qu'il a compris cela, qu'il avait arrivé à sa destination, il a reçu la paix parce qu'il a changé sa vision. Toutes ces questions se sont éparpillées à un instant. Il a donné gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, j'aimerais aussi partager une parole avec vous. J'espère aussi qu'à travers cette parole, que le Seigneur va changer comment on voit cette situation et va nous permettre de glorifier le Seigneur. Le passage qui veut partager avec vous, c'est Philippiens 1, versets 21-24. La parole dit ceci. Car Christ est ma vie et la mort n'est mais un gain. Car Christ est ma vie et la mort mais un gain. Ça, c'est Paul qui est en train de dire ce message aux églises des Philippiens. Donc, il dit qu'en fait, que la vie dont on cherche, la vraie vie, que c'est avec Jésus-Christ. Que c'est avec Jésus-Christ dans les cieux. Et que Jésus-Christ a dit en fait que lui, il est la vie. Donc en fait, il dit en fait, en mourant, qu'il va pouvoir vivre parce que ça va lui donner accès à Jésus-Christ. Donc il dit, en Christ est ma vie, donc c'est lui qui va partir voir Jésus-Christ, qui va pouvoir avoir accès à cette vie. Dieu voit la mort comme un gain, mais que la mort lui permet d'avoir accès à Jésus-Christ. Et Somme 84 dit ceci. 84 dit, mais vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Quand j'ai avant, je ne comprenais pas cela. Qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Il y a tellement de choses à faire, à visiter. Mais un jour avec Dieu et mille ailleurs, mais ça part. Quand même, la balance n'a pas tout le sens. Mais en fait, quand on comprend qu'en fait, hors de Dieu, il n'y a pas de vie. Hors de Dieu, il n'y a pas de vie. La vie n'existe pas hors de Dieu. Donc, si tu fais 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans hors de Jésus-Christ, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la mort, ça ne sert à rien. C'est zéro. Prends 1000, tu multiplies par zéro, ça donne zéro. Prends 10 000 ans, tu multiplies par zéro, ça donne zéro. Donc, hors de Jésus-Christ, hors de Dieu, en fait, il n'y a rien. Mais un jour avec la vie, c'est l'éternité. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Il avait compris que hors de Dieu, il n'y a pas la vie. Donc cette plénitude de la vie, la plénitude de la vie, c'est en Jésus-Christ. Et même ressuscité, on n'expérimente pas tout cela. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, versets 9 à 12, ça dit ceci. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc ici, sur terre, on ne connaissait pas. Partiel. Ici, sur terre, on a une expérience partielle avec le Seigneur. Mais c'est quand on sera avec lui qu'on va entrer dans cette connaissance, on va entrer dans cette connaissance parfaite. Verset 12 dit ceci. Verset 11 et 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Donc, en fait, la relation qu'on a avec le Seigneur, qu'on voit les choses, qu'on reçoit les choses, donc, ce n'est pas face à face. Donc, il y a, c'est comme si derrière nous, il y a un miroir. Donc, tu as le miroir pour le voir. Donc, c'est pas face à face. Donc, c'est même obscur. Donc, on n'a pas une bonne connaissance. C'est comme vous avez une pare-brise, vous conduisez, vous avez un miroir. Vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe derrière. C'est difficile, c'est limité. C'est pour ça que vous, ceux qui parlent de faire le test de conduite, ils perdent plusieurs fois. En fait, ils ne passent pas plusieurs fois. Ils échouent plusieurs fois. Mais quand vous avez le face à face, c'est plus facile. C'est pour ça qu'il dit d'une manière obscure, continue à lire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, Paul parle de ce face à face. De ce face à face avec le Seigneur. C'est pour ça que plus tard, il va dire en fait qu'il est avantageux. Qui lui parte avec Jésus-Christ. Continuons encore avec Philippiens. Le premier verset, verset 21, disait ceci. Car Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Après, ça dit ceci. Mais, il y a un mais. Donc, il dit un mais. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Jésus-Christ est la vie, la mort est un gain. Il dit un mais. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, malgré en fait son désir profond d'être avec Jésus-Christ, il y a un mais. C'est quoi ce mais? Quelle est la raison pour laquelle il va retarder sa rencontre avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi il dit ce mais? Quelle est cette raison? Est-ce que ce sont les bontés du monde? Est-ce que c'est la bonne nourriture? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est même la famille? Est-ce que c'est même le mariage? Quel est ce mais? Est-ce que ce sont les fortunes? Est-ce que ce sont les voyages? Est-ce que ce sont les vacances? Quel est ce mais qui va faire ce qu'il retarde? C'est qu'il y a un gain pour lui. Il retarde cette rencontre. Il retarde ce face à face. Quel est ce mais? Continue verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Donc, si on comprend bien la parole de Dieu, le Seigneur est en train de nous dire à travers Paul que c'est seulement son œuvre. C'est ça en fait la raison valable pour laquelle il pourra retarder son départ avec le Seigneur. Que le mais, que cette raison, c'est pour son œuvre. L'œuvre pour laquelle il a été appelé. L'œuvre pour laquelle Dieu a préparé depuis la connaissance, depuis la création du monde. Que c'est ça en fait le retard. Et en fait, bien aimé, la raison pour laquelle on est sur terre, c'est pour cette œuvre. Si on comprend même, c'est la raison principale pour laquelle nous sommes chrétiens, les enfants de Dieu, c'est pour accomplir une œuvre. Quand un ambassadeur est envoyé dans notre pays, c'est pas juste pour vivre, mais c'est pour accomplir une œuvre bien précise pour représenter le royaume de Dieu. Quand son œuvre est terminée, la maison, le pays le renvoie. C'est ce même principe que se passe ici sur le plan terrestre. C'est que Paul est en train de dire parce qu'il sait qu'il n'appartient pas dans ce royaume, il n'appartient pas sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés en Christ. Christ est dans les cieux. Donc quand l'œuvre est terminée, bien-aimé, ce qui suit, c'est ce face à face. Ce n'est plus cette connaissance partielle. Ce n'est plus ce miroir, c'est plus cette connaissance obscure. Et cette connaissance parfaite. De maintenir ce désir de partir voir le Seigneur. Et le Seigneur aussi, ce désir d'avoir ce face à face. Quelqu'un dit face à face. Et c'est que Paul est entre les yeux ici. Seulement son œuvre est une raison pour laquelle il pourrait retarder son départ. Car il est sur terre pour son œuvre. Il n'avait même pas le choix. C'est un thème, ce qui est intéressant, bien aimé, c'est que ce n'est même pas à lui de décider. Ce n'est pas à Paul de mettre cette décision. Et comme chrétien, c'est pas aussi à nous de mettre cette décision. Parce que, est-ce que tu connais ton œuvre? Mais c'est celui qui écrit qui connaît. C'est lui qui sait quand c'est terminé. C'est lui, donc ce n'est même pas à nous de mettre cette décision, C'est Dieu qui le décide, c'est Dieu qui le permet et c'est Dieu qui rappelle. C'est Dieu, quand l'œuvre est terminée, c'est Dieu pour qui rappelle. C'est quoi cette œuvre? Dans la raison pour laquelle, en fait, une des raisons principales, ce que Paul est en train de dire, qui prend ses serviteurs, c'est lui qui les prend, l'œuvre achevée. L'œuvre achevée. Qu'ils ont donné tout le cœur. Ils l'ont fait avec humilité, tout amour, sans relâche. Parce qu'ils ont terminé. Et le Seigneur maintenant veut se face à face. Et nous, bien aimés, nos œuvres ne viennent pas de nous. Ce n'est pas nous qui décidons nos œuvres. Ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on veut faire. Ce n'est pas cela. Si on peut dire, oh, il était en train de commencer. Oh, il n'était pas encore arrivé. Mais qu'est-ce que tu en sais? Comment tu sais? C'est Dieu qui écrit. Est-ce qu'on était avec Dieu qui écrivait cela? C'est Dieu qui le sait. Vous vous rappelez l'histoire des talents, n'est-ce pas? Celui qui avait un, il n'avait pas multiplié. Le mec l'a chassé. Celui qui avait deux l'a multiplié. Celui qui avait deux talents, tu te rappelles, il a reçu la même proportion de récompense par rapport à celui qui avait cinq talents. Il a reçu les mêmes félicitations. Donc, souvent, on pense que l'œuvre, c'est une durée de 100 ans, une durée de 20 ans, une durée de... Ça, c'est notre manière de voir les choses, mais c'est Dieu qui connaît. Regardez Étienne. Regardez Étienne. Est-ce qu'Étienne avait accompli son œuvre? Quand vous voyez comment on le décrit, il était plein de puissance, plein de foi, mais il était lapidé. On peut dire, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as permis cela? Je pense que son temps était arrivé. Il a passé son mandat à Paul. Je pense que son œuvre était terminée. Étienne. Donc c'est Dieu qui connaît ce qu'il a prévu pour ses enfants. Et quand l'œuvre est achevée, il permet ce face-à-face. Souvent, on voit d'une manière terrestre que l'armée, les gens de Paul l'ont tué. Pourtant, Dieu a juste enlevé, il a son temps. Dieu fait des plans qui sont hors de notre compréhension. Souvent, il a une idée de comprendre. Mais ce qu'il met en œuvre en utilisant même les gens du monde dans ses plans pour sa gloire, ça c'est le Dieu qu'on sert. C'est pour ça qu'il est bon. Romains 8, 28 dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu a permis, Dieu est souverain. Et pour ses enfants, pour ceux qui l'ont servi, pour ceux qui ont marché avec lui, pour ceux qui étaient dans le plan de Dieu, je pense que selon la parole de Dieu, quand c'est achevé, quand ce que Dieu avait écrit est achevé, maintenant Dieu a ce face à face. Éphésiens 2 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Dans notre vie, en fait, appartient à Dieu. Nous sommes son ouvrage, nous l'appartenons, nous avons un père, nous venons de Dieu, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes son ouvrage. Et quelle est la raison? Quelle est la raison de notre vie? Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour. C'est ça qu'on doit souligner. C'est ça la raison. Beaucoup pensent qu'on est venu ici pour se reposer. Mais le repos, c'est dans le ciel. Beaucoup pensent qu'ils sont juste venus ici faire les familles. Donc peut-être que c'est ça votre appel. Mais on est venu pour des bons jours. Donc il y a une destinée, il y a une raison, il y a un pour. Quel est ce pour? Ce sont des bons œuvres. Étant chrétien, il a été créé en Jésus-Christ. Il a été né de nouveau. Quand vous sortez après votre baptême en Jésus-Christ, c'est pour accomplir ces bons œuvres. Votre mission, pour te souffler de vie, c'est pour marcher dans cela. Mais quand vous perdez le temps, Dieu, il ne va pas vous appeler. Ce sera difficile. Il faut que vous fassiez ces bonnes œuvres. Les gens dépendent de cela. Nous sommes venus pour ces bonnes œuvres. La raison de notre vie étant chrétien, c'est de faire des bonnes œuvres. Paul dit ça en Philippiens. Voici Éphésiens dit encore cela. Qui a créé ces bonnes œuvres? C'est venu de Dieu. Donc, qui a créé ces bonnes œuvres? Que Dieu a préparé d'avance. Est-ce que c'est nous qui avons préparé cela? Est-ce que c'est celui qui n'est pas chrétien qui a préparé? Qu'est-ce que c'est son avis qui a préparé? Non, c'est Dieu qui a préparé. C'est Dieu qui connaît ses bonnes œuvres dans sa souveraineté. Donc, si on peut observer ces choses avec nos yeux physiques, on a un jugement qui n'est même pas le jugement de Dieu. Pourtant, sur le plan de Dieu, check. Ce que je pense. Ce que je pense. Qui a été fait? Psaume 139, c'est dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné, afin qu'aucun d'eux n'exista. Avant, aucun d'eux n'exista. Il avait déjà tout écrit. Il avait déjà préparé, entrant dans ses œuvres, achevant ses œuvres. C'est la raison pour laquelle on est appelé. Quand c'est achevé, on entend bon. Et fidèle serviteur, entre dans le repos, entre dans le repos de ton maître. On a maintenant ce face à face. Donc, on va continuer le verset d'Éphésiens, de Philippiens, salut ceci. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. C'est qui de beaucoup est le meilleur. Il dit en fait, être avec ce face à face. C'est beaucoup, c'est meilleur, c'est mieux. C'est pour ça que quand le pasteur a compris cette révélation, s'il savait avec qui en fait elle était, mais pour lui, il ne voulait même plus qu'elle revienne. Pour dire en fait qui est beaucoup plus mieux, ce qui de beaucoup est le meilleur, c'est mieux. Donc tout chrétien va arriver là-bas. Mais avant d'arriver, le désir, le cœur du Père, c'est qu'on fasse ce pour qu'on est appelé, ses bonnes œuvres. Et quand c'est fini, le Père vous appelle. Continuez à lire. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Mais si Paul n'avait pas terminé sa course, quand Paul n'avait pas terminé sa course, ce n'était pas encore son temps. Ce n'était pas encore achevé. Vous allez voir qu'on l'a lapidé tellement de fois, mais tellement qu'il était dans la volonté de Dieu. Dieu a dit, non, ce n'est pas encore fini. Tu dois aller à Rome. Ce n'est pas fini. Tu dois témoigner à Rome. Presque mort. On l'a laissé mort. Voyez son récit dans Corinthiens. Ce n'est pas fini. On sait un Dieu qui sépare la mer rouge, qui fait à ce que les eaux sèches redeviennent la vie, qui a ressuscité les gens. Mais pourquoi il n'a pas fait ceci? Pourquoi il n'a pas fait cela là-bas? Mais qu'on entre maintenant dans son plan divin, qu'on comprend maintenant la raison pour laquelle nous sommes venus, qu'on comprend maintenant qu'il y a ce face-à-face qui nous attend, qu'on comprend maintenant que nous sommes les ambassadeurs, que nous n'appartenons pas dans ce monde. On sait qu'on a compris nos œuvres, appris à face à face. La question la plus importante, c'est qu'en est-il de vos œuvres maintenant? Donc je pense fermement que notre frère, notre pasteur, parce qu'il avait achevé sa course, pas selon ce que les hommes ont, la définition des hommes, pas selon l'expectation, ce que les hommes attendaient. Il faut comprendre qu'on dit fini, ce n'est pas nous qui avons écrit cela, c'est Dieu qui avait écrit cela. Et je pense pour force et cette assurance que c'était fait, qu'il a fini sa course. Et que Dieu l'a pris. que Dieu a appelé son serviteur. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est pas que ce sont les gens du monde. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, parce qu'il est puissant, il est fort, tout bien concourt au bien, tout bien concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est lui qui l'a fait. Dans le résumé, en fait, de notre frère, le résumé, en fait, de notre pasteur, c'est à célébrer. Ce sont des moments de célébration pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il a fait à travers lui. C'est à célébrer. Parce que maintenant, les danseurs, face à face, dans ce moment glorieux, plus cette connaissance partielle, plus les taos se face à face. Cette connaissance parfaite. Je pense que ce verset un peu décrit notre pasteur qui est parti. 2 Timothée 4, 7 à 8. A dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Yes, indeed. J'ai cette assurance qu'il a fait. J'ai gardé la foi. Hallelujah. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avancement. Puis si on parle du bon combat, gardez la foi, comme notre frère l'a fait. Donc, ce sont des moments de célébration, qu'on comprend maintenant ça, qu'on voit maintenant cela avec les lunettes du Seigneur. Ce sont les moments de célébration, de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie, ce qu'il a fait à travers sa vie, à lui-même d'abord dans cette transformation. On avait la puissance de Dieu car avant Jésus-Christ, on marchait vers les ténèbres. Tout le monde a un témoignage. Tous ceux qui sont en Christ ont ce témoignage. Aussi maintenant, à travers lui, à travers les œuvres qu'il a fait à travers lui. Donc, bien-aimé, ça, ce sont des temps d'action de grâce. Parce que Dieu a fait les transformations. L'a sauvé. Il y a eu des à travers les âmes qui ont été transformées. Des âmes qui ont été sauvées. Ceux que Dieu a utilisé pour les retirer du chemin de la mort. Des guérisons. Oui, il y a des choses à témoigner. Des impacts qu'il a fait de la vie des gens. L'héritage physique, l'héritage spirituel. Les sœurs et les frères en Christ qu'il a formés, qu'il a soulevés. Des familles qui ont été nées. Des gens qui ont été guéris, délivrés, transformés. Des gens qu'il a conduits en Christ. Ça demande la célébration. Le nom du Seigneur Jésus-Christ doit te glorifier. Ce qu'il a fait en lui, ce qu'il a fait à travers lui. Et ce qu'on va faire ce samedi, on va glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait dans la vie de notre serviteur. Et maintenant, qu'on a compris cela, quand les cœurs ont été apaisés, quand les yeux maintenant voient les choses selon le plan divin, la prochaine question qu'on se sauve, quand on doit te poser, c'est en fait, mais que faire? Que faire? Parce qu'il y a certaines questions qui n'ont pas été répondues. Il y a certaines promesses qui n'ont pas été achevées dans notre vie. Il y a peut-être une pause dans la vie de certains. Comment maintenant avancer? Que faire? C'est là qu'on va parler de Josué, des versets qu'on a mis sur la toile. Mais on va faire ça la semaine prochaine. Donc, j'espère que ce message vous fortifie. J'espère que ce message vous essuie les larmes. J'espère que ce message vous fait comprendre le plan divin de Dieu, selon sa sagesse infinie, comment il agit et comment il est souverain jusqu'à présent. Dans nos vies et le contrôle. Et dans ce message, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.